Alors, c'est notre rendez-vous avec Émile Procloutier. Émile, bonjour.
Bonjour.
Bon, on revient sur des sujets intéressants ce matin, puis avec des expériences terrain concrètes.
Oui, oui, à l'international, que j'ai, je vois souvent des nouvelles passer, puis je me disais, ça vaudrait la peine de... Enfin, c'est un petit florilège, en fait, de nouvelles que j'ai vues passer dans les dernières semaines. On parle de circulation automobile dans les centres-villes de grandes villes. À San Francisco, il y a une grosse rue, bon, je suis jamais allé, mais qui s'appelle Market Street. Ça semble être l'équivalent d'un Saint-Denis ou Sainte-Catherine pour ici, qui est une des plus achalandées, donc, de la ville. Et ils ont annoncé récemment qu'à compter de janvier 2020, la nouvelle était dans la presse là, il y a quelques jours, cette rue-là allait être interdite à la circulation automobile. Donc, ça va être deux voies de tramway, deux voies d'autobus, élargissement des trottoirs, élargissement des pistes cyclables, mais ils ont choisi de refuser l'accès aux voitures. L'accès va être maintenu pour, bon, certains,
les autobus,
les véhicules d'urgence, certains véhicules de livraison à certaines heures, les taxis, mais pas Uber ni Lyft, mais les taxis, oui. Oui, il y avait un enjeu environnemental dans cette décision-là, réduire les GES, qualité de l'air et tout, mais il y avait surtout un enjeu de sécurité, d'après ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'accidents, des accrochages, machin, et ça devenait même désagréable de circuler pour tout le monde. C'était une rue qui était finalement, qui était à force d'être à tout le monde, n'était plus à personne. Alors, ils ont choisi, je pense que ça a été un cours de pression citoyen, fini par convaincre la ville, ça a pris des années, mais là, la mesure vient d'être annoncée, ça va être effectif à compter de janvier 2020. C'est pas la seule ville qui a choisi de faire ça pour réduire sa congestion, d'interdire l'accès à certaines rues. New York lance un projet pilote sur sa 14e rue, donc de carrément interdire l'accès aux voitures sur cette rue-là, qui était très achalandée. Les gens craignaient que si on bloque le trafic-là, il va se répartir sur les autres rues autour. Mmh. Il semble que depuis que le projet a été appliqué, ça s'est pas passé, les craintes ne se sont pas avérées, au contraire. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres villes qui ont choisi dans le monde d'adopter des mesures aussi draconiennes?
Je dirais Montréal, puis je vais donner l'exemple. Mais la transformation de la rue Sainte-Catherine, qui est la principale artère, si on veut, commerciale de Montréal, le fait de ramener ça à une voie de circulation, contrairement à ce que c'est actuellement, c'est clair que c'est pas une interdiction formelle, mais c'est une interdiction réelle ou un découragement réel.
Est-ce qu'il n'est pas question que les plaques de stationnement sautent, d'ailleurs, sur la rue à plein endroit?
Il va falloir que tu passes.
C'est ça.
Alors, tu sais, je comprends pour des véhicules de livraison, comme on dit à certains moments, puis des véhicules d'urgence, mais connais-tu un automobiliste qui va vouloir aller se promener sa rue Sainte-Catherine, qui va être pris là-dedans parce qu'il ne pourra pas avancer, il ne pourra pas tourner, puis même déjà que c'est congestionné. Moi, je pense que c'est une façon de dire, venez pas en auto sur la rue Sainte-Catherine. Anyway, tu ne pourras pas t'arrêter. Il va falloir que...
Tu passes par là pour les quatre parts, mais tu ne vas pas là.
Non, il va falloir que tu stationnes autour, tu sais, que tu traverses pour aller ailleurs, stationner peut-être. Mais c'est une forme de découragement.
Pour donc, un changement de comportement. Ça fait penser à ce qui s'est passé à Oslo depuis quelques années. Il y avait des groupes politiques qui disaient, OK, interdisons le centre-ville aux voitures. Mais finalement, la mesure qui est adoptée, ça a été ça. On va enlever 700 places de stationnement. Donc, dans la ville d'Oslo. Depuis le début 2019, donc, cette conversion-là a été entamée. Au départ, les propriétaires d'entreprises craignaient que ça devienne une genre de ville fantôme, qu'il n'y ait plus de visiteurs, puis qu'il ne se passe plus rien. Ça semble être l'inverse qui se produit. Puis comme dans plusieurs autres villes qui ont converti certaines rues en zone piétonne, les quartiers d'Oslo qui ont été piétonnisés sont parmi les plus populaires de la ville, selon la vice-maire d'Oslo, Anne Markussen. Donc, évidemment, encore là, il y a certains véhicules qui ont encore accès, les transports collectifs et tout. Il y a eu aussi un réinvestissement massif dans les transports collectifs. Le vélo est rendu plus confortable. Mais la réflexion dans l'article que j'ai lu, que la vice-maire d'Oslo fait, c'est qu'elle dit avant, vraiment, les villes étaient construites autour de l'auto. Peut-être parce qu'il y avait un prestige associé à ça, mais aussi... Carrément, c'est comme ça que les villes étaient pensées. Puis c'est en train de changer, notamment dans les nouveaux développements, en tout cas dans ce pays-là. C'est comme si tranquillement, on réfléchit la ville autrement. Et on a aussi davantage conscience de l'impact de la pollution, notamment sur les enfants. Puis elle dit, tu sais, il y a 20 ans, c'était tout à fait normal de fumer à l'intérieur, par exemple. Puis aujourd'hui, plus personne pense que ce serait une bonne idée de faire ça. Fait que c'est vraiment un rapport aux mentalités qui change. Pour ce qui est des centres-villes ailleurs en Europe, on en parlait hors d'onde tout à l'heure, à Londres, mais c'est aussi le cas à Stockholm et à Milan, les automobilistes ont encore accès aux centres historiques des villes, mais il faut payer pour y avoir accès.
Et si tu te... J'ai vu à Londres, là, ouais. Je te jure que si tu te retrouves dans la zone qui est tarifée et que tu n'as pas payé ou tu n'as pas la vignette, là, je pense, attention, l'amende est...
C'est salé.
Oui.
Rome, même chose, a annoncé que son centre complètement serait interdit aux voitures diesel des particuliers à partir de 2024. Déjà, il faut contourner le centre-ville, la zone en tout cas du Colisée, parce que ça a l'air que la pollution abîmait le monument. Je ne sais pas si ça abîme les poumons, je suppose que oui, mais en tout cas, ça abîme le monument. Donc, j'imagine ça, c'est depuis 2013. Mais à partir de 2024, à Rome, centre-ville
mais
interdit.
Quoi? Moi, je suis convaincu ouais. qu'une partie du vieux Montréal, je ne sais pas quand, là.
Ouais, ça s'en vient.
Je suis convaincu. L'étroitesse des rues en partant, là, c'est ouais. la densité de population, autant des gens qui y vivent que des gens qui y travaillent. Puis tu rajoutes les calèches, les voitures, la livraison, les vélos, les trottinettes. Bon, à un moment donné, ça n'a comme pas de sens. Je pense que s'il y a un quartier à Montréal ou un secteur, ça serait le vieux, d'après moi.
Est-ce que la réaction ou la façon dont ces changements-là peuvent être anticipés, perçus par les gens, autant que ceux qui habitent là que ceux qui habitent autour, qui y passent ou qui y travaillent, est-ce que toi qui as observé des lignes ouvertes pendant...
Bien, je te dirais que souvent les gens... Tu sais, exemple, on parle souvent du plateau.
Oui.
Puis combien d'auditeurs me disent « moi, j'y vais pas ». Tu sais, j'ai renoncé à y aller, point. Il y en a qui disent « j'ai renoncé à y aller en auto », donc... ça a un effet pervers, par contre, pour exemple de la livraison ou si tu as besoin d'un réparateur, ils peuvent te charger plus cher parce que, bon, il y a un coefficient de difficulté. T'sais, moi, je vais jamais en auto dans le Vieux-Montréal. Jamais. Parce que, ça, d'abord, c'est un casse-tête. Puis j'ai pas besoin d'y aller. Je vais aller à proximité, puis je vais stationner, puis je vais aller marcher, puis c'est tout. Je trouve que ça n'a pas de sens. Surtout là, quand tu arrives dans les périodes d'été, bon, c'est comme too much. Mm-hmm. Et je pense que la plupart des gens, c'est un peu ça aussi. Il n'y a personne qui rêve d'envie d'être pris dans des bouchons.
Effectivement.
Insolubles. Parle-moi donc aussi de l'Inde, province là, qui a banni les pesticides.
Complètement, oui. La province, c'est l'État du Sikkim, donc qui est en Inde, qui a choisi, il y a plusieurs années, d'amorcer une transition vers l'agriculture bio. Totalement. Et là, récemment, l'article d'un quotidien suisse que j'ai lu annonçait que ça vient d'être la transition est comme achevée, complétée. Donc, l'État du Sikkim, qui est une petite province de l'Inde, 620 000 habitants, mais quand même 1,4 million de touristes chaque année. Et ils ont choisi, là, c'est ça, en 2003, d'amorcer cette transition-là. Ça n'a pas été une transition de tout repos, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Déjà en 2015, ils ont interdit les engrais et les pesticides chimiques. Il y a eu des années difficiles pour les agriculteurs, baisse de production. OK, les gens trouvaient les produits bio trop chers, les achetaient plus, machin. Le gouvernement a dû compenser certaines pertes pour les agriculteurs. Mais tranquillement, là, depuis quelques temps, il semble que l'équilibre soit revenu. Et des entrepreneurs dans le milieu agricole témoignent, notre production maintenant à l'hectare a retrouvé son niveau d'avant la réforme et nous avons posé les bases d'un modèle économique qui est rentable. On n'a plus besoin d'acheter des engrais, des pesticides chimiques, ce qui réduit les coûts. Les terres sont plus fertiles. Il semble que d'autres États en Inde qui tranquillement semblent vouloir s'y mettre aussi. Mais les entreprises du secteur chimique font beaucoup de lobbying dans la presse pour empêcher le bio de faire tache d'huile. Mmh. Donc le gouvernement fédéral de l'Inde semble être plus frileux. Mais il y a comme ça des initiatives locales qui finissent par porter fruit. Vietnam, interdiction complète du Roundup et de beaucoup de pesticides faits à la base de glyphosate. Même si il y a un peu d'intimidation de la part des États-Unis, ça semble être maintenu. Et dernier petit truc mignon qu'on va mettre en ligne, une vidéo qui montre une technique importée du Japon, mais qui est utilisée dans une rizière dans la Camargue en France. C'est que plutôt que d'employer des pesticides dans les rizières, ils lâchent des canards. Alors, les canards peuvent pas manger la feuille de riz, ça marche pas pour eux, mais ils mangent des petites herbes autour, donc ils désherbent. Leur défection agit comme un engrais. Donc, remplacement des pesticides par des trolleys de canards dans les rizières. Je sais pas si y en a des agriculteurs qui nous écoutent. Je sais pas si certains animaux peuvent faire des jobs que les pesticides faisaient. J'y connais pas grand-chose, mais je serais curieux de le savoir. Mais je vais mettre la vidéo en ligne parce qu'elle est franchement mignonne.
Le canard, cet ami permanent et pour la vie.
Voilà.
Merci, Émile. À la semaine prochaine, 9h09.